Madame Delmas va nous parler du budget. Donc, on ouvre. Donc, elle va vous présenter donc le débat d'orientation budgétaire. On va lui demander. Vous avez un débat qui avec un document qui fait 25 pages, qui est peut-être un peu lourd. Donc, on va lui demander d'en tirer la substantifique moelle, de façon à ce que ça ne soit pas trop lourd et trop rébarbatif. Mais les principaux points, quand même, sont importants. Merci.
Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, des données générales dans lesquelles s'inscrit ce débat d'orientation budgétaire. La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit, comme les autres secteurs publics, les administrations publiques locales doivent contribuer à l'effort de maîtrise des dépenses publiques en leur assignant trois objectifs. Une norme de progression des dépenses de fonctionnement à 1,20 par an. Une norme de désendettement correspondant à une amélioration du besoin de financement de 2,6 milliards d'euros par an. Et une surveillance de la capacité de désendettement à un seuil maximum de 12 ans pour le bloc communal. En ce qui concerne sa mise en œuvre, notre collectivité n'est pas contrainte, mais bien évidemment, elle s'inscrira dans cette tendance dont les règles essentielles sont la croissance limitée à maximum 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement et le respect d'une norme de désendettement. Le projet de loi de finances 2019, tout d'abord le contexte macroéconomique, il prévoit une croissance du PIB évaluée à 1,7%, une inflation évaluée à 1,4%, les perspectives d'atterrissage étant évaluées à 1,8% pour 2018. Pour mémoire, l'inflation fin septembre 2018 est de 2,2%. Et ça, c'est important, la revalorisation des bases cadastrales est fonction de cet indice à la fin novembre depuis le PLF 2017. Les principales mesures de la loi de finances concernant les collectivités locales. Les concours financiers de l'État sont stables, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements est maintenue en 2019, et ainsi que les dotations de soutien à l'investissement. Par ailleurs, le projet de loi de finances 2019 confirme le principe de l'automatisation du FCTVA qui simplifie fortement ce dispositif. Et bien sûr, la suppression de la deuxième tranche de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Nous passons à l'analyse de la situation financière de la collectivité et, bien sûr, des orientations 2019. Donc, les ressources de gestion, principalement, nous avons les recettes fiscales qui se décomposent en contributions directes, les impôts locaux, et la fiscalité reversée à la COBAS. En 2018, ces recettes ont été impactées par la réforme de la taxe d'habitation engagée dans le cadre du PLF 2018 et par les conséquences du transfert de la gestion du stade nautique à la COBAS à mi-exercice. Les contributions directes représentaient elles seules plus de 73% des recettes de gestion de la ville de la Thèse de Buch. Elles sont constituées des trois taxes ménages, c'est-à-dire la taxe d'habitation, la taxe foncière et les taxes sur les propriétés bâties et non bâties. La croissance du produit fiscal découle uniquement de l'effet base, c'est-à-dire des effets conjugués de la revalorisation des bases cadastrales votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances et du dynamisme propre de la construction sur notre territoire. Pour les orientations 2019, conformément aux engagements formulés à l'occasion des débats sur le vote des taux depuis 2015, le budget primitif 2019 sera caractérisé par le maintien des taux d'imposition à leur niveau de 2015, soit 5 années consécutives, et le maintien des abattements et exonérations en vigueur à ce jour. La variation des contributions directes résultera donc de l'effet base, c'est-à-dire de la revalorisation législative des bases existantes et de la variation physique des bases. Sur la base d'une hypothèse prudente, où la revalorisation des bases locatives prévues dans le cadre du projet de loi de finances est limitée à l'inflation constatée au mois de novembre, nous l'avons estimée à 1,5%, et sur la base d'une variation des bases physiques dans la moyenne des années antérieures, soit une moyenne de 0,8%, nous obtenons un produit des contributions directes 2019 estimé à 27 587 000 euros, soit une évolution de 2,3%. En ce qui concerne la fiscalité reversée par la COBAS, Depuis sa création, elle était fixée à 315 622. Pour 2019, conformément à la délibération du 11 juin 2018, compte tenu des charges transférées, l'attribution de compensation est désormais versée par la ville à la COBAS. La fiscalité reversée par la COBAS se limite ainsi à la dotation de solidarité communautaire. Vous avez un tableau donc qui retrace l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Et donc le reversement à la COBAS d'attribution de compensation d'un montant de 30 124 euros est imputé en dépenses de fonctionnement au chapitre 014. La taxe additionnelle aux droits de mutation. Compte tenu des tendances constatées au niveau des transactions immobilières, les prévisions budgétaires en matière de taxes additionnelles aux droits de mutation sont maintenues à un niveau élevé. Et nous avons une estimation pour 2019 de 2 500 000 euros. Les autres recettes fiscales qui correspondent aux impôts indirects, qui sont entre autres la taxe sur la consommation finale d'électricité, les droits de place du marché et la redevance des mines. Donc pour les orientations 2019, le montant donc de ces taxes sont prévus à hauteur de 1 589 225, donc sensiblement un peu inférieur à l'atterrissage 2018. Pour les orientations, donc les dotations, subventions et participations, comme nous l'avons vu dans le contexte général, les dotations de l'État ainsi que dotations nationales de péréquation sont stables, maintenues à leur niveau de 2018. Et donc, par conséquent, nous prévoyons en 2019 une estimation équivalente à 2018. Les subventions, elles correspondent pour l'essentiel au financement croisé perçu dans le cadre des politiques contractuelles engagées par la municipalité. Le transport du pôle petite enfance du CCAS à la ville conduit à intégrer les financements relatifs à ce service public dans le budget communal. Les subventions de la caisse d'allocation familiale versées dans le cadre de ce service par le biais des prestations de services et du contrat enfance représentent plus de 750 000 euros. Pour les orientations 2019, en dehors de la subvention État sur les rythmes scolaires évalués à 80 euros, l'ensemble des partenariats engagés les années précédentes se poursuivent sur 2019. Les subventions versées à la ville sont maintenues à un niveau proche du niveau 2018. Les financements CAF perçus antérieurement par le CCAS dans le cadre de la petite enfance seront transférés à la ville à compter du 1er janvier 2019. Nous aurons donc en BP 2019 une prévision de 484 602 en subventions perçues et en subventions transférées petite enfance 751 000 euros. Les autres dotations qui correspondent pour l'essentiel aux compensations fiscales versées par l'État en contrepartie des exonérations en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières, il est prévu à niveau au BP 2019 894 300, donc sensiblement un montant correspondant à l'atterrissage 2018. Les autres recettes courantes correspondent donc aux recettes des services et du patrimoine. Ces recettes retranscrivent d'une part l'ensemble des recettes payées par les usagers des services publics communaux, l'ASH, garderie périscolaire, aide aux devoirs, spectacles culturels et redevances d'occupation du domaine public, et d'autre part les remboursements de charges par les budgets annexes, pôle nautique, île aux oiseaux ou EPIC, office de tourisme. Pour 2019, le transfert à la ville au 1er janvier 2019 du service public de la petite enfance conduit à prendre en compte le produit de ce service à hauteur de 200 000 euros. La politique tarifaire petite enfance est fixée dans le cadre de notre partenariat avec la CAF. Il est bien évidemment maintenu dans le cadre de ce transfert de compétences. Par ailleurs, la décision de baisser les tarifs des prestations jeunesse et une baisse du produit des permissions de voirie conduisent à un niveau de recettes sensiblement équivalent à l'exercice 2018. Pour les autres produits de gestion courante, ils correspondent au loyer des propriétés communales et des redevances payées par le titulaire de délégation de services publics. Le parc de locaux loués se caractérise par une relative stabilité. Les produits de l'allocation fluctuent globalement au rythme de l'indice de la révision des loyers. Le solde correspondant à la redevance du délégataire du service public pour la restauration municipale, Sogeres, la délégation de service public du Stade Nautique, contractualisée avec la société Equalia Mercure, a été transférée à la COBAS le 2 juillet 2018. Pour les orientations 2019 concernant ces recettes, évidemment, elles seront stables sur la moyenne période. Le changement de délégataire en matière de restauration municipale et le transfert n'ont pas modifié l'économie générale de ce chapitre. Les atténuations de charges qui correspondent au remboursement de charges sur les emplois aidés et au remboursement des assurances en matière d'accidents de travail seront réduites pour le BP 2019 à un niveau de 34 900 euros. En conclusion sur les recettes de gestion, compte tenu des tendances précédemment exposées, les recettes de gestion prévues au BP 2019 évolueront de 1,75 million d'euros, soit 4,77% par rapport au BP 2018, mais seulement 0,8% si on compare à l'atterrissage 2018. Soit une prévision pour des recettes de gestion à hauteur de 38 502 000. Je passe aux charges de gestion. Les principales charges de gestion sont les charges de personnel qui restent contenues. L'évolution en moyenne annuelle sur la période de 2015 à 2018 est de 1,5%. L'atterrissage 2018 est estimé à 16 766 021. Les effets de la réduction du nombre d'emplois aidés engagés depuis le deuxième semestre 2017 se sont traduits par une hausse du nombre des agents non titulaires. L'incidence budgétaire de ces désengagements de l'État apparaît au niveau des recettes perçues au chapitre 013, atténuation de charges. Il se traduit au niveau des effectifs équivalents temps plein, calculés selon le principe effectif physique multiplié par la quantité de travail, ainsi que le décrit le tableau ci-dessous. Donc, dans ce principe-là, nous avons sur 2018 459,23 ETP. Si on intègre la durée pendant laquelle les agents ont été réellement employés, nous obtenons les équivalents temps plein travaillé, ce qu'on appelle ETPT. Et là, le nombre pour 2018 est de 385,19 effectifs. Ces effectifs comprennent des agents titulaires et des agents non titulaires. La population d'un âge moyen de 47,85 ans se féminise progressivement, les femmes représentant plus de 52% des effectifs titulaires. En cumulant les effectifs titulaires et non titulaires, nous obtenons une pyramide des âges moins vieillissante. La maîtrise des effectifs doit permettre d'atténuer les dispositions réglementaires des réformes engagées précédemment et non encore achevées, telles que le protocole parcours professionnel carrière et rémunération, PPCR, ou la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, refondant le régime indemnitaire de l'ensemble des agents municipaux. Par ailleurs, il est à noter que cette stabilisation des charges de personnel s'est déroulée dans un contexte marqué par la poursuite du programme de titularisation des agents contractuels, ainsi que par la promotion interne ou l'avancement de grade de 38 agents lors de la dernière CAP. Le transfert de la petite enfance du CCAS à la ville au 1er janvier 2019 va modifier cette situation par l'apport de 55 agents pour l'essentiel féminin. De plus, l'étude organisationnelle des services de la ville, lancée courant 2018, va permettre de définir les axes de progrès au niveau de la gouvernance, de la politique ressources humaines et de l'organisation. Les mesures en découlant permettront, dès 2019, d'améliorer l'efficience de l'organisation municipale et de répondre aux attentes de nos concitoyens. À périmètre constant, la croissance des charges de personnel est estimée à 1% pour atteindre 17 484 200 euros. Compte tenu donc de la poursuite des mesures découlant des différents accords, le transfert des agents petite enfance, qui s'élève à 1,6 million d'euros, Il en résulte une croissance des charges de personnel de BP à BP évaluée à 1,78 million d'euros, dont 1,6 au titre du transfert de la petite enfance. Les charges à caractère général. La progression des charges à caractère général est liée d'une part à la mise en service des nouveaux équipements municipaux, mais aussi au niveau service déployé en faveur de la population testerine, telle que la centrale ou l'amélioration de l'entretien de l'éclairage. L'atterrissage 2018 est de proche de 7 millions, 6 952 000. Pour les orientations 2019, les charges à caractère général suivent évidemment le rythme des investissements réalisés les années antérieures. Cette progression des charges liée à l'entretien du patrimoine communal et au développement de notre offre de services publics, mais néanmoins, cette progression restera contenue par des économies d'échelle et l'optimisation de la commande publique. Donc en 2019, et en intégrant les charges transférées du service de la petite enfance, l'estimation est de l'ordre de 8 132 000. En ce qui concerne les charges de transfert, les charges de transfert retranscrivent l'ensemble des subventions versées par la ville. Et vous le savez, c'est essentiellement les subventions versées au CCAS, la Caisse des écoles, les associations, compensation de la restauration municipale, mais aussi les contingents aux écoles privées, les admissions de créances en non-valeur ou les indemnités des élus. Nous avons un atterrissage 2018 de 3 279 000 pour ce poste-là. Je vais aller l'essentiel, notamment pour la plus importante, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale. Pour 2018, cette subvention représente 55% de l'ensemble de ce chapitre. Compte tenu du niveau du fonds de roulement de cet établissement, le montant de la subvention a été transitoirement réduite à 1,8 million. Pour l'orientation 2019, compte tenu d'une part donc, du transfert de la petite enfance à la ville et du résultat excédentaire du CCAS, la participation allouée sera ajustée à hauteur de 1,2 million d'euros. Les subventions versées aux associations, il y en a 80, à la Caisse des écoles et les autres charges de transfert seront pour l'essentiel maintenues à leur niveau de 2018. Donc nous aurons pour ce chapitre une estimation de l'ordre de 2 661 640 pour 2019. Les atténuations de produits correspondent notamment aux pénalités RSU et au FPIC. En ce qui concerne ces deux charges, malheureusement, ce sont des charges, elles évolueront de la sorte pour 2019. Les pénalités RSU, aucune charge déductible n'ayant été réalisée sur 2017, la ville devrait s'acquitter d'une pénalité de l'ordre de 400 000 euros. Et en ce qui concerne le FPIC, il est prévu de porter par l'article L 2336.1 du CGCT de porter ce prélèvement à 2% des ressources fiscales communales et intercommunales. Les charges donc sont ainsi revues à la hausse et devraient atteindre un niveau proche de 500 000 euros sur 2019. Ce qui nous ferait donc une augmentation relativement conséquente en 2019. De ces pénalités SRU et FPIC qui passeraient donc à 930 000 euros au total. Conclusion pour les dépenses de gestion. En 2019, en raisonnant de BP à BP, les charges de gestion devraient enregistrer une hausse de 2 millions d'euros environ, soit 7,17%, s'expliquant essentiellement par l'intégration du service de la petite enfance au sein des services municipaux, qui conduit à une augmentation brute des charges de gestion d'un montant supérieur à 1,8 million d'euros, alors que la baisse de la subvention, on l'a vu, versée au CCAS est estimée à 0,8 million. Le versement de pénalités de SRU à hauteur de 0,4 million d'euros, et la croissance des charges à caractère général du fait des charges induites par les nouveaux équipements. Nous avons vu les ressources de gestion, nous avons vu les dépenses de gestion. Les ressources moins les dépenses vont nous permettre de dégager un excédent brut de gestion. tout en modifiant le périmètre de notre action. Cet excédent de fonctionnement devrait rester pour 2019 à un niveau très confortable, à hauteur, selon nos prévisions, de 7 687 000 euros. Nous avons, je vais aborder maintenant la dette, l'encours de dette bancaire donc, est de 33 millions total, hein, y compris le PPP, de l'ordre de 33 443 000. Il se caractérise par un taux moyen de 2,43%, ce qui est un niveau relativement faible, avec une très très faible exposition aux hausses de taux du fait de la part quasi en taux fixe, presque 96%. Nous avons donc sur cette dette des intérêts de l'ordre de 869 000 euros, un capital à rembourser de l'ordre de 2 670 000 euros. Donc pour l'orientation 2019, compte tenu du fonds de roulement estimé dans nos perspectives d'atterrissage au 31/12/2018, aucun emprunt ne devrait être mobilisé sur l'exercice 2019. La commune devrait par conséquent se désendetter à hauteur de 2,57 millions d'euros. Il est à noter que le coût de notre dette, c'est-à-dire les charges financières, compte tenu des taux particulièrement bas, est à un niveau équivalent aux intérêts payés en 2015. L'encours de notre dette devrait diminuer sur 2019 et elle devrait être ramenée à 30,77 millions d'euros. En conclusion, sur la section de fonctionnement, la prospective ci-dessous décrit la trajectoire estimée à ce jour des produits et des charges de fonctionnement sur la période 2017 à 2022. Cette projection est bâtie sur les hypothèses de croissance constatées au compte administratif et non pas au budget prévisionnel tel que présenté dans les orientations du BP 2019. Ce qui est intéressant de voir dans cette prospective, évidemment, c'est le niveau de l'excédent brut de gestion dégagé. Donc, comme vous pouvez le voir, il se situe entre 10 et 9 millions d'euros. Donc, niveau très, très, très confortable. Et également dans cette prospective, il est très intéressant de constater également la capacité d'autofinancement, donc la solvabilité de notre commune, hein, et sa capacité à autofinancer ses investissements futurs. Une capacité d'autofinancement en 2022 à plus de 8 millions d'euros. Voilà en ce qui se concerne la prospective. Les épargnes, donc, pour les orientations 2019, compte tenu des transferts de charges avec le CCAS et la COBAS, l'épargne brute hors produit de cession devrait avoisiner les 6,9 millions d'euros et l'épargne nette hors produit de cession devrait avoisiner les 4,3 millions d'euros. Donc, après avoir vu notre autofinancement, nous passons aux investissements. Pour les recettes définitives d'investissement, nous avons évidemment des recettes, la dotation, le FCTVA et des taxes d'aménagement. Pour l'atterrissage 2018, nous prévoyons 3,6 millions d'euros. Le FCTVA étant versé, vous le savez, en fonction des dépenses d'équipement réalisées au cours de l'exercice précédent. Le niveau de cette dotation reste depuis 3 ans à un niveau supérieur à 2 millions. Pour les orientations 2019, le fonds de compensation de la TVA, le FCTVA, est proportionnel, on vient de le voir, aux dépenses d'équipement mandatées. Le niveau des dépenses d'équipement étant toujours très soutenu en 2018, l'estimation de cette recette attendue sur 2019 est évaluée à 1,9 million d'euros. L'attractivité de notre territoire testerin et son développement se traduit financièrement par un réel dynamisme de la taxe d'aménagement. Cette taxe perçue au titre des documents d'urbanisme se maintient à un niveau particulièrement élevé sur la durée de ce mandat. Cette recette, compte tenu des permis de construire délivrés au cours des 2 dernières années, est évaluée à un montant de 1 million pour 2019. Les subventions de l'État du département de la Gironde de la Côte-Basse sont orientées à la baisse depuis 2015. Nous prévoyons en 2019 donc une somme sensiblement à la baisse par rapport au BP 2018 et donc une estimation de 1 500 000. Nous prévoyons, en ce qui concerne les cessions d'immobilisation, terrain bâti, non bâti, véhicules et matériel, un niveau relativement prudent de l'ordre de 1 120 000 pour les orientations 2019. Et donc en 2018, les dépenses donc ont été maintenues à un niveau toujours particulièrement élevé. Les dépenses d'investissement avaient plus de 13,5 millions d'euros de dépenses mandatées et plus de 7 millions de dépenses engagées non soldées à la date du 31 octobre. La restructuration du théâtre Cravé et du pôle technique municipal, entre autres, les aménagements urbains structurants tels que l'aménagement du giratoire du Bois de Rome, la rue des Frères Dupuis, la première tranche de l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle, la mise aux normes et le renforcement de l'éclairage public, etc., font partie de ces dépenses structurantes 2018. Pour 2019, toujours dans la continuité d'une politique ambitieuse et dynamique d'investissement au service de la population, les dépenses d'équipement sont estimées à environ 24 millions d'euros. Ces inscriptions budgétaires se déclineront en trois temps. Une première inscription au BP 2019, une seconde inscription dans le cadre des reports des restes réalisés 2018 et le solde dans le cadre du budget supplémentaire 2019 au cours du second trimestre de l'année. Ces dépenses d'équipement comprennent donc des opérations bâtiments telles que la poursuite du programme d'accessibilité au PMR ADAP, la réhabilitation du théâtre Cravé, la dernière tranche de la réhabilitation de la tribune du Broc, la construction d'un restaurant municipal self au pôle technique, la création de vestiaires au stade du Clavier à Cazaux, des opérations de voirie telles que l'AREM éclairage public, la poursuite du programme d'accessibilité PMR PAV, la poursuite de l'aménagement du cœur de ville, l'aménagement de l'avenue Charles de Gaulle à la Teste, les rues Payan-Lesca du 14 juillet à la Teste de Buch, l'aménagement des avenues Bellevue des Vendageurs et de la Forêt à Pila, l'aménagement des rues Leclerc et Doré à Cazaux, entre autres. Des opérations d'urbanisme telles que les acquisitions de réserves foncières, des subventions versées aux bailleurs sociaux au titre des surcharges foncières, et des opérations récurrentes d'acquisition et de renouvellement des moyens de service, tels que la modernisation des réseaux et des outils numériques, la poursuite du renouvellement du parc de véhicules, l'acquisition de moyens est nécessaire au service. En ce qui concerne, je termine également sur les budgets annexes, parce que ça va aller très vite, dans la mesure où on s'inscrit absolument dans la continuité et même format que 2018. Pour le budget annexe de l'île aux oiseaux, nous maintiendrons en 2019 ces objectifs de gestion de l'île conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention établie avec le Conservatoire du littoral. Pour le budget annexe pôle nautique, il maintiendra en 2019 ses objectifs d'amélioration continue du service rendu aux usagers de la halte nautique de Cazaux et des zones de mouillage des corps morts. Et pour le budget annexe du parc des expositions, toujours les objectifs 2019 sont identiques à ceux de 2018, c'est-à-dire garantir le remboursement du prêt qui a financé l'acquisition du parc, de garantir l'amortissement de cette immobilisation et de financer la taxe foncière. Cependant, il est à noter que pour 2019, la redevance du délégataire, la SEMEXPO, fixée depuis 2014, date du dernier renouvellement de la DSP, à 88 000 euros par, hors taxe par an, sera marquée par l'arrivée à échéance courant troisième trimestre 2019. Voilà, et enfin, pour conclure de façon générale, les orientations 2019 se caractérisent par la maîtrise des dépenses, la stabilité de la fiscalité, le désendettement et un programme d'investissement important, structurant. Ces orientations traduisent le souci majeur et constant d'amélioration des services rendus à la population et du cadre de vie pour tous.
Merci, Madame Delmas, donc pour, disons, cette perspective donc sur les orientations budgétaires de 2019. J'en profite évidemment pour remercier les services pour leur excellent travail et pour la production, évidemment, avec Madame Delmas, de ce rapport. Voilà, donc, puisque c'est soumis à débat, donc nous allons ouvrir le débat. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Davé, Monsieur Joseph, ouais, d'accord. Monsieur Davé.
Une remarque que je vais faire dans un contexte général aujourd'hui qui est, on le voit bien, hein, qui est difficile, un contexte national qui est particulièrement très difficile et économiquement, je veux parler, on a une population qui s'appauvrit, une population française qui s'appauvrit, et je ne vois pas comment celle de la Teste ne peut pas y échapper, enfin ne peut y échapper. Il est très difficile aujourd'hui pour des gens qui ont des revenus moyens de boucler des fins de mois quand on voit que tout augmente, et je ne vais pas y revenir, hein, sur que ce soit que ce soit l'essence, que ce soit le quotidien, hein, que ce soit pour ceux qui se déplacent et les péages, et plein de choses. Et on sait bien que dans ce contexte, on le voit, et pour les communes, ça va être difficile. Hein. L'État ne donne pas d'une main ce qu'elle prend déjà des deux autres. Simplement, ma petite remarque, on a cette année, dans ce débat d'orientation budgétaire, un taux d'investissement qui est très fort. Donc j'en suis ravi, hein, puisque j'y vis dans cette commune, donc j'en suis fortement ravi. Mais juste une petite question, est-ce qu'il n'est pas, pour cette année, est-ce que, dans le contexte dans lequel nous sommes, où il y a tout un tas d'incertitudes pour les mois à venir, pour les années à venir, on le voit bien, on est peut-être à la limite de débordement, ce que je ne souhaite pas. Autant je soutiens, je fais partie des 70% de Français qui soutiennent, mais je ne soutiens ni les débordements, ni la violence qui peut l'entourer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce niveau d'investissement, monsieur le maire, je me permets de poser la question, n'est-il pas très élevé, hein, si on le prend globalement, 24 millions, il fait peut-être partie des années les plus les importantes en matière d'investissement. Voilà, je pose cette question. Merci.
Merci, monsieur Davé. Monsieur Joseph.
Merci, monsieur le maire. Je vais peut-être être un petit peu plus long, mais bon, c'est un débat. Je vais parler étonnamment d'urbanisme. Il se trouve que c'est une compétence que les communes de la communauté de l'agglomération du Sud-Bassin, une compétence que ces communes-là ont gardée. Comme par exemple, nous avons pu choisir de garder le contrôle de nos offices de tourisme, qui était notre droit. La culture, aujourd'hui, d'une compétence qui est portée depuis ce mandat, sauf erreur de ma part, par la COBAS, l'urbanisme, non. Voilà. Donc nous conservons tout pouvoir d'urbanisme sur notre commune. Évidemment, il y a des textes qui s'imposent à nous, dont un qui va être rediscuté de son origine et qui concerne donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et dans les orientations donc budgétaires aujourd'hui, évidemment, vous mettez en œuvre un certain nombre d'actions, de rémunérations, destinées à l'organisation de l'urbanisme de notre ville. Bon, vous n'avez pas jugé que des indemnités soient nécessaires, manifestement, toujours pour un agent à l'urbanisme dans notre commune, ce qui me semble pourtant nécessaire. Donc, vous n'avez pas prévu, c'est une de mes questions, toujours pas, d'avoir un agent à l'urbanisme à la Teste de Buch. Voilà. Vous noterez au passage que je ne vous demande pas non plus d'avoir un élu à la culture. On n'en est plus là. Bon.
Je pense que agent.
Adjoint à l'urbanisme.
Voilà. Pardon. Non, mais parce que je pensais que les agents, nous en avions quand même un certain nombre à l'urbanisme.
Ah oui, de qualité, je le rappelle. C'est pour cela que l'urbanisme est une chose compliquée, l'architecture est une chose compliquée, vous l'avez dit, et il est nécessaire en effet une certaine continuité républicaine. Il y a des réflexions qui sont faites, qui sont menées par des personnes qui sont parfaitement compétentes à la matière, il ne me semble pas que cela soit votre cas, et qui ont posé par moments des servitudes. des servitudes qui sont prévues depuis des années, des servitudes que nous avons votées. Des servitudes de mairie sur, donc ce sont des emplacements qui sont sélectionnés par une mairie pour des aménagements à prévoir. Il y a un cadre, une procédure bien précise dans ces servitudes. Et il se trouve que entre 2016 et donc 2018, certaines ont été supprimées, certaines conservées, certaines autres dévoyées. Une que j'ai donc attaquée la dernière fois, je tiens à préciser qu'encore une fois, je suis extrêmement respectueux de cette assemblée. Je ne suis pas là ici pour me donner en spectacle. Si, si, c'est très précis. Je tiens bien à le préciser, monsieur.
Simplement, c'est...
Il n'y a rien de personnel.
C'est un dob. Hein, c'est un dob. On est sur un budget. Ouais. Et vous parlez de choses qui n'ont rien à voir avec le débat d'orientation budgétaire. Mais enfin, bon...
Ça ne me dérange pas autre mesure, parce que c'est non, ce qui fait que j'ai du mal.
Ça ne dérange personne. Mais ça peut évidemment faire sourire les uns et les autres, et ça semble vous gêner.
Non,
mais
du tout, personne n'a souri. Je n'ai pas vu de sourire. Ce n'était pas pour ça que je disais, c'est que j'essaie d'expliquer
à ce conseil
municipal.
Je
ne suis pas en dehors du sujet, monsieur. Je ne suis pas en dehors du sujet. Lorsque vous gardez comme compétence l'urbanisme, il est certain que votre budget est orienté à la mise en œuvre de cet urbanisme. Donc c'est bien de débattre d'orientation budgétaire dont je parle aujourd'hui. Voilà. Je notais que donc il n'y avait pas d'adjoint à l'urbanisme. C'est bien une ligne forcément qui se retrouve dans un budget. Le fait, les indemnités des élus. Bon. Passons.
Il y a le nombre d'adjoints. Mais il faudrait quand même que vous compreniez que la délégation n'a rien à voir avec le nombre d'adjoints. Donc,
je vous en parle le pas fait qu'il n'y...
Non, mais vous avez
le nombre d'adjoints.
Non, mais vous avez l'air de dire comme il n'y a pas d'adjoints.
Déjà présent, qu'il y a une
comme il
n'y
a pas d'adjoints,
l'urbanisme.
Il y a plus dans le budget.
Vous pouviez conserver une délégation à l'urbanisme, monsieur Garcia, qui, je le répète, est toujours un très bon élu à mes yeux, quelqu'un qui travaille.
Voilà. J'espère qu'il va le continuer de l'être.
Oui. Enfin, en tout cas, manifestement, vous n'avez pas jugé que son travail en matière d'urbanisme était le bon. Et manifestement, vos positions en matière d'urbanisme ont conduit un certain adjoint, voilà, à démissionner. Nous sommes bien d'accord. Donc moi, ce que j'essaye de montrer, je le répète, à cette assemblée que je respecte, si personnellement j'ai quelque chose à vous reprocher, c'est de m'obliger à forcer ma nature, donc de devoir, évidemment, exposer des griefs. Le premier des griefs, il est intervenu en 2016, en janvier 2016, lorsque vous avez, donc, ce qui est votre droit, je le comprends très bien, vous pouvez avoir des orientations qui soient différentes, mais vous avez supprimé un certain nombre de servitudes. Voilà. Et il en est une qui est en lien, parce que prendre les choses isolément, c'est facile. On peut dire, en effet, faire la remarque, mais combien de places de parking auriez-vous pu faire rue Pierre-Dignac, de cette servitude dont je parlais donc la dernière fois, qui n'est pas la même dont je parlais, puisque le vote a eu lieu la dernière fois. Est-ce que vous avez la réponse vous-même? Combien de places de parking, de stationnement, vous avez pu faire sur cet emplacement, sur cette servitude qui était prévue? Bon. Je pose une question. Bon. Donc, j'ai une partie de la réponse, il est certain. Voilà. Donc, il se trouve que lorsque vous avez supprimé cette servitude...
Quand c'est comme ça, vous dites, vous avez...
Non, vous pouvez avoir un autre chiffre que le mien. Si. Je pense que les services d'urbanisme, lorsqu'ils ont mentionné dans un plan local d'urbanisme que nous avons voté en 2011, et sauf erreur de ma part, un certain nombre de ces servitudes étaient déjà préexistantes à un précédent plus. Donc, vous avez conservé ces choses, ces aménagements qui sont prévus à destination du public. Vous les avez conservés lorsque vous avez fait une modification simplifiée du plan local d'urbanisme en 2016, vous avez supprimé un certain nombre de servitudes et vous en avez gardé d'autres, entièrement. Il se trouve que la dernière fois, la servitude en question prévoyait, et de longue date, des places de stationnement. Vous avez justifié que vous conserviez cette maison parce qu'elle avait un mur qui était assez intéressant. Personnellement, au moins, elle en a quatre d'intéressants. Mais je ne pense pas que ce soit exactement en ce sens-là que vous en parliez. Est-ce que vous avez jugé que cette maison, cet édifice, était un édifice suffisamment intéressant pour devoir le conserver? C'est une autre de mes questions. Encore une autre question. Dans les édifices à conserver, dans le plan local d'urbanisme qui va suivre, c'est notre activité de conseil municipal. Je vous le répète, l'essentiel de notre travail aujourd'hui, si l'on a un pouvoir important, c'est un pouvoir d'urbanisme. Voilà. Donc je trouve tout à fait à propos dans ce document, dans ce débat d'orientation budgétaire. Donc Est-ce que vous avez intégré cet édifice dans les édifices à protéger ? De la même manière, vous avez fait une liste d'un certain nombre d'édifices. Il y en a certains, bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne vois pas trop l'utilité de les protéger. Avez-vous prévu de protéger un édifice ? Je sais que Dominique Ducasse s'en était inquiété lors du précédent mandat. Je le rejoignais dans son avis. La Testerine qui se trouve dans l'îlot que nous appelons Franklin ou Mazodier, c'est une question de point de vue, là aussi. Voilà. Donc, c'est cela, mes questions. Qui amène à une chose, c'est quel est le projet ? Aujourd'hui, moi, je ne suis plus en mesure d'avoir une lecture concrète du projet pour lequel nous avons été élus la dernière fois, réélus. Je ne retrouve pas, dans le choix que vous avez fait, et je vous le dis maintenant pourquoi, de supprimer ces places de stationnement, et peu importe le nombre, une dizaine, une quinzaine, dans la même rue, vous devez avoir 36, 37 places de parking. Vous avez une densification du centre-ville. Vous avez un vieillissement de la population que nous le voulions ou non. Combien, monsieur le maire, avez-vous de places de parking pour les handicapés, sachant que vous avez prévu de faire un mandat solidaire, tourné vers le handicap, vers l'adaptabilité pour que tout le monde puisse, dans son bien-être, se sentir bien sur le territoire de la Teste de Buch ? Combien y a-t-il de places de handicapés dans cette rue qui compte une petite dizaine de commerces, des médecins et non pas des pédiatres ? Pour être précis, avez-vous, pour vous aider, un oncologue, il me semble, dans le tas. Combien y a-t-il de places handicapées dans cette rue ? Dans quelle mesure pouvez-vous, survoi, monsieur, construire, établir une place handicapée ? Est-ce possible ? Est-ce que les normes vous le permettent ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus évident de faire une place handicapée dans, à l'intérieur de l'îlot, dans cet emplacement, dans cette servitude qui est prévue ? Et mon autre, et la suite de ma question, encore une question. Assez précise. Il y a une procédure bien précise pour ces servitudes. Il se trouve que donc, en janvier 2016, vous avez supprimé une servitude qui se trouvait, encore une fois, donc, à proximité du parking Ichard, de la rue Ichard, le parking de la place Jean Hameau. Il se trouvait que cette servitude, encore une fois, prévoyait des stationnements. Mais elle prévoyait aussi peut-être une continuité de voie, qui est une voie de rencontre, puisque c'est à la mode aujourd'hui. Mais vous savez, la Teste de Buch n'a jamais été en retard sur ce terrain-là. Et en effet, nous eussions pu avoir une voie totalement sécurisée, de rencontre avec des vélos. Je ne vais pas revenir sur... Voilà. Donc j'acte bien là maintenant que par un certain nombre de décisions, alors que nous ne cessons de densifier ce centre-ville, chose qui est nécessaire, que nous arrêtions de prendre sur le territoire, chose que vous n'avez pas prévu de cesser, a priori. Il faut peut-être prévoir des places de stationnement. Et ils s'en suppriment, il y a plus d'habitants. Je ne suis pas un radical, moi, comme disait De Gaulle, des places. Non, du stationnement intelligent, ce serait formidable, quand même, pour nous. Ce serait possible, je pense. Voilà. Donc, aujourd'hui, la dernière des questions... Je vous demande savoir quelle a été la procédure qui a été suivie une première fois. Est-ce que vous avez, monsieur le maire, eu le propriétaire qui avait sa parcelle grévée d'une servitude, qui s'est rapproché de vous et qui vous a demandé de procéder à l'achat obligatoirement de cette parcelle ? Première question. C'était en effet en 2016. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui. Mais la question se reposera encore. Ensuite, je reviens sur la dernière fois. Donc, le dernier conseil municipal. Je vous demande, monsieur, il se trouve que j'étais pas très d'accord avec cette délibération, parce qu'il faut savoir que l'existence d'une servitude, c'est une procédure bien précise. C'est un emplacement qui est interdit au propriétaire de construire sur l'emplacement et même de bénéficier de droits de construire attachés à la surface de terrain concernée par l'emplacement. Eu égard à ces restrictions dans l'utilisation de sa propriété, l'existence de l'emplacement réservé permet au propriétaire concerné d'adresser une mise en demeure, d'acquérir l'immeuble ou la partie de l'immeuble concernée par l'emplacement. Est-ce que, monsieur le maire, ça n'est pas mentionné dans la délibération de la dernière fois, vous avez reçu cette mise en demeure de la part du propriétaire ? Je veux le savoir. Et si ce n'est le cas, à contrario, êtes-vous bien dans la légalité dans cette procédure ? Et enfin, et ça n'est pas une question, mais une constatation. Une constatation qui n'est pas faite par moi. Je me suis permis d'en faire une, parce qu'il se trouve que... J'ai quelques connaissances à la matière, mais je me suis dit que François de Mazières, qui n'est autre que le maire de Versailles, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été en son temps le directeur si je retrouve ma petite note, voilà, qui a été président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, a une position qui se trouve être en accord avec la mienne. C'est une chance. C'est une chance pour moi. Parce que ça n'est pas moi qui le dis.
Nous voilà rassurés.
Vous êtes rassurés. Bon. Oui, mais c'est... moi, ce que je suis en train de démontrer, c'est que vous votez des choses en votre âme et conscience, et qu'aujourd'hui, très peu de personnes décident de l'avenir de notre commune, et que passent devant vous des délibérations que vous votez de bonne foi, sans en avoir les éléments concrets. Donc c'est pour ça que je pose la question, quel est le projet? Puisque lorsque nous votons un plan local d'urbanisme, nous votons un plan local d'urbanisme, que nous nous engageons vis-à-vis
Monsieur
de la
Joseph,
population...
Monsieur Joseph, on comprend que vous avez un autre projet, vous le développerez en 2020, je crois que tout le monde l'a compris. Voilà, mais c'est tout. Vous développerez
alors,
votre projet...
je voulais pas venir sur ce terrain-là.
Et vous verrez bien l'adhésion qu'aura la population. Que voulez-vous que je vous dise?
C'est d'un niveau fabuleux, vraiment, à chaque fois. Alors, moi, écoutez, lorsque des personnes... Et c'est bien la difficulté. Excusez-moi, j'ai une certaine intériorité en matière de politique. J'ai déjà vécu cela. Je ne sais pas si vous êtes allé à Jérusalem récemment... Mais il y a un syndrome parfois, c'est qu'il y a des personnes qui sont touchées par la grâce. J'ai déjà vécu par le passé, j'ai déjà connu un maire par le passé, qui à chaque fois que l'on avait une opinion différente, alors que nous sommes encore...
Là, je crois qu'on ne joue pas dans la même cour, parce que moi, je n'ai pas été touché par la grâce, monsieur.
Mais si j'ai l'impression, puisque aujourd'hui, vous estimez, vous êtes le seul capable de définir quel est l'avenir urbanistique de notre ville, que lorsque nous votons un plan local d'urbanisme, avec des servitudes qui sont conduites et reconduites par notre conseil municipal, au dernier moment, vous pouvez décider de manière tout à fait arbitraire, et donc empêcher toute lecture à qui que ce soit du devenir urbanistique de notre ville. De manière totalement arbitraire, vous décidez de dire qu'une maison, elle a un mur qui est assez intéressant, que vous ne l'intégrez pas aux édifices à conserver, que d'autres édifices qui pourraient être conservés, nous vous le demandions, ne seront pas conservés. Donc, moi, je dis, quel est le projet? Je n'ai plus de lecture. Et alors, donc, je reviens sur ce cher monsieur Mazière, de vous dire qu'à la base, que nos villes sont menacées par l'uniformité, monsieur. Je cite François de Mazière. Pendant des siècles, on a construit avec les matériaux que l'on trouvait sur place. La tuile en Provence, l'ardoise dans le Val-de-Loire, la brique dans la région toulousaine, et l'on s'adaptait aux conditions climatiques. Cette adéquation participe de manière fondamentale à la réussite de l'architecture française. Hélas, au XXe siècle, on a assisté à un changement radical de paradigme. Grâce à l'invention du béton, on a pu multiplier les constructions bas de gamme et identiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le seul objectif était de construire vite, beaucoup et pas cher. À l'époque d'ailleurs, on croyait bien faire, puisque l'on apportait le chauffage, la salle de bain, la lumière. Le problème est que l'on a complètement délaissé l'embellissement des balcons, les sculptures des façades, la couverture des toits, en considérant qu'il s'agissait là de détails secondaires. Donc, monsieur le maire, vous savez combien c'est important pour moi aujourd'hui d'avoir des éléments architecturaux qui ne soient pas faits à la marge sur nos constructions à venir. Donc, monsieur le maire, ma dernière question, où en est-on, s'il vous plaît, de la charte architecturale? Voilà.
La parole est à monsieur Pradérol.
A suivi la chute et il faut que j'allume ma machine. Bien, bon, mais... C'est avec plaisir que j'ai entendu M. Davé avoir un discours quasiment de gauche. M. Davé, je vous accueille avec plaisir. Bon, après, c'est vrai que sur De Mazières et compagnie, j'étais un peu largué, mais bon, je pense que j'étais pas le seul. Alors, je vais vous dire ce que je sais faire le mieux. D'abord, remercier Mme Delmas qui a lu de A à Z toute la délibération. Et là, ce n'est pas une synthèse, non? Alors, on n'a pas fait attention. Nous, là aussi, on était largués. Voilà. Bien. Alors, après avoir longuement commenté l'an passé le nouveau cadre d'évolution des collectivités locales, je n'évoquerai que deux points qui ne sont pas traités dans la partie 1 des données générales. Le premier point est d'actualité. Tout de même... Comment oublier d'évoquer la situation actuelle de défiance? Vous l'avez évoqué au tout début de la séance, monsieur le maire. Comment oublier d'évoquer la situation actuelle de défiance entre un gouvernement et un président de la République et les collectivités territoriales. Le congrès des maires se tient actuellement. Et le président, qui s'était engagé à s'y présenter chaque année, a non seulement renoncé à venir, mais a organisé une réunion de câlinothérapie pour un millier d'élus. Mais pas n'importe lesquels. Les susceptibles de parler haut et fort n'en seront pas, ou n'en sont pas. Les invités ont été choisis et désignés par les préfets. Bien désignés, semble-t-il, car la presse ne fait état d'aucune parole effrontée sortie de l'Élysée hier soir. Ouf ! Les préfets peuvent souffler. Bien sûr, je ne m'attendais pas à lire ce genre de propos dans la présentation du DOB, mais de là à ne rien trouver sur les relations difficiles entre les collectivités et l'État, je vous ai connu plus belliqueux dans d'autres temps. Peut-être qu'à 16 mois des municipales, convient-il de tempérer ses ardeurs et afficher un consensus de bon aloi, n'est-ce pas ? Autre sujet, allez, celui-là plus technique, à compter du 1er janvier 2019, avec la mise en place du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, les organismes employeurs, privés et publics, auront désormais la responsabilité et la charge de la collecte des impôts sur les revenus en lieu et place des services de l'État, et notre collectivité, comme les autres, et comme les autres employeurs aussi, va endosser un nouveau rôle, celui de collecteur d'impôts. Cette charge n'est pas neutre en termes de temps de travail, de responsabilité et de formation pour les personnels concernés. Il faut rajouter que ce transfert de charge, bien évidemment, s'effectue sans contrepartie. Bien, donc revenons maintenant à la thèse, à la situation des finances de notre commune et à quelques développements au sujet des orientations que vous nous proposez. Comme vous ne manquez pas de nous lasser avec votre politique, je ne manquerai pas de continuer à vous lasser avec des critiques qui, bien sûr, ne surprendront pas. Premier constat, la situation financière du côté des recettes va bien, merci. Les recettes fiscales coulent à flot. Et quand le bâtiment va, tout va. En effet, ce n'est plus un objectif que vous poursuivez. Je crains, moi, que ce soit une obsession qui vous poursuive. L'obsession immobilière. On pense parfois que cela va se calmer, peut-être même s'arrêter. Mais non, cela reprend ici, puis là, indéfiniment. Obélix était tombé dans un chaudron de potions magiques tout petit. Seriez-vous tombé dans une boîte de béton tout petit ? Ici, les promoteurs immobiliers sont sur leur terrain de jeu. Ils prospectent toujours, encore et encore. Mais vous aussi, vous ne manquez pas de vous intéresser à tout ce qui ressemble à un terrain, une vieille maison, de vieux murs peut-être, et vous trouvez sans cesse. Nous le verrons dans une prochaine délibération. Il est vrai que la construction immobilière est d'un rapport conséquent et sans fin pour les caisses de la commune, avec des taxes foncières, d'habitation, la taxe additionnelle aux droits de mutation, et j'en passe. Au total, c'est quasiment, tout de même, 32 millions d'euros que vous prévoyez pour 2019. Si l'on intègre toutes les recettes de gestion, vos prévisions pour 2019 s'élèvent à 38 500 000. Donc, de quoi voir venir, n'est-ce pas ? D'autant que, et j'en viens aux dépenses, vous bénéficierez, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais ils ne sont plus là, du gel du point d'indice des agents en 2019, ce qui permet de contenir les charges de personnel. Le transfert du personnel de la petite enfance vient alourdir ce poste, mais c'est autant de moins qui sera versé au CCAS. C'est donc à somme nulle. Parmi les charges à caractère général, à noter, vous l'avez dit, les pénalités SRU pour un montant de 400 000 euros pour absence d'intervention financière sur le logement social en 2017. À noter aussi le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation intercommunale et communale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Madame Delmas, ce fonds, effectivement, est destiné à réduire les états de richesse entre les communes. Et il se trouve, vous l'avez remarqué, que nous sommes une commune riche, de plus en plus riche, comme vous le démontrez, puisque cette participation a été multipliée par 32 en 6 ans. Puis reste à charge le poids de la dette. L'encours de la dette au 1er janvier 2018 s'établissait à 36 millions d'euros, toutes dettes confondues. Comme la commune n'a pas emprunté en 2018, pour rappel, en 2017, vous aviez à la fois emprunté 8 400 000 et à la fois enregistré 11 483 000 de cessions, donc pas besoin quand même d'endetter cette année. Elle s'est désendettée puisqu'elle n'a pas emprunté et elle continuera en 2019, dites-vous. La dette restera toutefois très élevée, 30 770 000 euros. Venons-en aux orientations que vous proposez pour 2019. excusez-moi, outre les opérations récurrentes, de nombreuses opérations sont déjà en cours ou poursuivent des programmes pluriannuels. Pour certaines opérations, je citerai notamment l'aménagement du cœur de ville et l'aménagement de l'avenue Charles de Gaulle, j'avais demandé que des réunions de concertation avec la population et les élus soient organisées suffisamment en amont du projet pour agir. Toujours rien de tout cela. Votre définition du mot concertation, ramenée à une présentation, nous l'avons vu sur la première délibération, vous amènera à nous projeter sur un écran le projet d'aménagement le jour où vous devrez passer par le conseil municipal pour demander une subvention ou quelque chose de ce type. Bien sûr, tous les commentaires seront vains parce que le projet sera ficelé. Si d'aventure vous pensez, très humblement, que vous n'avez pas besoin des avis des autres, permettez-moi de vous rappeler à plus de réalisme. Depuis 10 ans, vous aménagez le centre-ville, sans contrainte aucune, ni d'avis contraire, ni de règlement, puisque sur ces 10 années, vous n'aurez supporté de PLU que pendant 2 ans à peine. Quelles conséquences ? Le centre-ville a vu sa capacité d'accueil plus que décuplée. Les promoteurs ont construit les logements, vous avez bitumé les rues au fur et à mesure. Point. Vous êtes-vous inquiété du quotidien de ces nouveaux habitants ? Non. Le piéton, le cycliste n'ont pas droit de cité, et je peux le dire au sens propre du terme. Pour eux, c'est l'exploit ou la chute. N'est-ce pas, chers collègues ? Comment, comme vous dites, reconstruire la ville sur la ville sans se soucier de la présence humaine ? Comment peut-on disserter sur la ville de demain sans prendre en compte les mobilités, toutes les mobilités ? Je ne reviens plus sur le commerce de centre-ville, quoique. Qu'avez-vous fait pour le conforter dans le centre ? Les promoteurs ont construit des locaux commerciaux en créant des conditions d'accès totalement dissuasives, et pour cause, ce sont parfois les mêmes qui commercialisent des locaux commerciaux sur la zone. Qu'avez-vous fait pour résoudre cette difficulté ? Manifestement rien ou pas grand-chose. Alors qu'une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels souhaitée et réalisée par l'État est en cours, nous savons qu'elle pénalisera un peu plus les commerces de centre-ville au profit des hypermarchés et autres grands magasins. Que restera-t-il en centre-ville ? Merci.
Merci, M. Pradérol. Bien, donc, le contexte national, et M. Davé, est difficile. La population s'appauvrit. On le sait, de toute façon, on en est bien conscient. Croyez que moi aussi, j'en suis conscient. Bon, ça n'a rien à voir avec les investissements, parce que ce sont des budgets qui n'ont rien à voir. Nous avons des budgets, et j'ai une politique d'investissement vis-à-vis de la population, vis-à-vis du contrat de la mandature. Donc, on le développe tout en étant au plus près au niveau du centre social. Vous savez qu'on a un centre social quand même qui grandit, qui se conforte avec des investissements importants, et notamment une transformation de ces espaces en maison des habitants, avec des extensions sur les trois espaces. C'est quand même quelque chose de très important, avec aussi des embauches d'animateurs, etc. On essaie de travailler au plus près avec une CTG qui va être modifiée de façon à avoir un mieux vivre ensemble et être au plus près des habitants. Après, M. Pradérol, sur la situation de défiance vis-à-vis de l'État, je suis comme tout le monde. Moi, je n'étais pas dans les maires élu par le préfet, alors je n'ai peut-être pas eu la grâce ni d'aller à Jérusalem ou de je ne sais pas de quelle onction, ni du préfet, dont moi je n'étais pas choisi. Bon, je ne m'en porte pas plus mal, bien sûr. Tout ça, je suis bien d'accord avec vous. Après, bon, malgré tout, nous avons eu 5 ans difficiles, une année de gel, puis 4 années de baisse des subventions. Au moins, maintenant, ça a cessé. Donc déjà,
ça serait difficile de faire plus.
C'était moins mal qu'avant, si je peux dire. Donc malgré tout, il y a ça. Alors après, pour le moment, le prélèvement à la source, etc., le gel, enfin, la taxe d'habitation, bien sûr qu'on est inquiet comme tout le monde parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous être donné. Pour le moment, on nous donne la même somme. Bon, alors on ne sait pas dans les années qui viennent, est-ce que cette somme va avoir la dynamique que nous avons. Maintenant, j'entends qu'on parle de réformer la DGS. Bon, ben, je suis comme tous mes collègues maires et élus, ben, dans l'expectative et pas très inquiet. Et pas très rassuré, c'est évident. Voilà, bon, je ne saute pas tous les jours parce que monsieur citait De Gaulle comme un cabri, moi aussi, en disant les mêmes choses. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Après, il y a eu un débat d'orientation budgétaire cette semaine à la COBAS. Tout le monde sait que nous avons la chance d'être dans une région riche. Et la COBAS, grâce aussi au dynamisme de la TES, et là, vous vous en glorifiez. Donc, que voulez-vous ? La commune apporte beaucoup à la COBAS. La commune est dans une zone... finalement...
Il y a quand même du retour sur investissement, quand
oui,
même.
Oui, mais à la COBAS, quand il y a eu ça, vous avez abondé en disant « c'est bien, on a... vraiment, la COBAS aussi est une PCI riche. » Alors, comme la ville. Alors, ce que vous glorifiez dans une assemblée, la même semaine, vous pouvez pas, disons, le dénigrer dans l'autre.
Non, dénigrer pas, je le constate.
Simplement, après bitumé, le goudron, le machin, c'est toujours la même chose. On a bitumé les rues, elles en avaient peut-être bien besoin. Voilà ce que je vais vous dire aussi. Bon, et puis, la ville est en mutation. C'est difficile de reconstruire une ville sur elle-même. Alors, j'entendais tout à l'heure qu'on va... j'essaie de reconstruire la ville sur elle-même. Nous avons des obligations. Vous savez, il y a une loi SRU, il y a les lois Duflo, il y a tout un tas de choses qui existent qu'il faut respecter. Après, nous avons aussi un PLH qu'il faut respecter. Tout ça fait que le PLU, on est 65%... disons, d'augmentation dans l'urbanisation, et le reste, on essaie de le porter dans les 35%, dans le reste, avec la difficulté que c'est, vous savez, que vous l'aviez déjà commencé, depuis plus de 20 ans, la ville ne consomme plus d'espace, et on continue là-dessus, puisque c'est la réglementation, et le souhait, puisque de toute façon, il faut quand même reconstruire la ville sur elle-même, et puis aussi... si vous voulez, pour les transports, etc., on ne peut plus continuer de vivre avec des lotissements écartés et écarteler la ville. Alors c'est sûr que de reconstruire la ville, de faire des espaces publics, de faire des préemptions, alors de faire des androns, de choisir certaines servitudes. Bon, il y en avait qui existaient depuis longtemps parce qu'elles étaient évidentes. Il y en a de nouvelles maintenant qui vont apparaître ou qui sont déjà dans les documents qu'on peut consulter dans le PLU. Voilà, c'est une stratégie. Alors, c'est sûrement pas la vôtre, M. Joseph, mais ça, il n'y a pas de problème. Vous développerez votre projet, vous le ferez connaître. Voilà, moi, je pense qu'il y a une orientation. La maison qui a été achetée va faire une liaison entre la rue d'Ignac et la rue de Gaulle, qui sera une liaison douce, apaisée, et où finalement il y avait très très peu de places de parking, et mes services techniques avec une aire de retournement. Finalement, j'ai jugé qu'en achetant cette maison qui est tout à fait utilisable au profit d'associations, c'était peut-être plus intéressant que d'arriver à faire sûrement moins de places de stationnement que vous pensez, avec l'aire de retournement. Voilà, tout simplement. Après, il y a d'autres endroits. Voilà, je vais pas après répondre plus sur vos questionnements, sur des chartes, etc. Vous le verrez. Je pense qu'on a un architecte conseil qui est brillant, qui est reconnu. Alors, il ne s'appelle pas comme le vôtre, etc. Mais je pense qu'il a fait... c'est une sommité nationale aussi, qui a fait des concours internationaux, qui a fait beaucoup de choses. Il est aussi, disons, recommandable que le vôtre, je pense. Il a une vision de la ville qui correspond quand même, je pense, à une majorité de gens. Alors, ça va mettre du temps, mais la ville mute. Et je pense que dans quelques années... il fera encore mieux vivre à la teste. Voilà, donc je...
Est-ce que je peux juste une remarque ?
Non, monsieur, je pense qu'on a...
Non, je voulais vous remercier.
Oui. Bon,
voilà, parce que je voudrais que le débat se pacifie un petit peu, parce qu'en effet, c'est une question de point de vue. Voilà, mon point de vue se défend tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur les places handicapées. Par exemple, j'ai posé d'autres questions. Après, ça fera l'objet de questions écrites.
Voilà,
c'est tout.
Soit mais vous me faites des questions écrites, calmement. On vous répondra. Et voilà.
Bon, c'est là tout l'effort que vous avez trouvé. Bon, d'accord.
Voilà.
Vis-à-vis de moi. Donc, il y aura bien des questions écrites.
Oui, oui.
Sur la procédure, par exemple.
Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, vous savez, si à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours faire des suspicions d'illégalité, si réellement vous pensez que c'est illégal, eh bien, vous en tirez les conclusions et vous faites. Voilà, c'est, à un moment donné, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas lancer des choses, c'est illégal, et puis quasiment dire au reste de l'Assemblée, ou tout du moins à mon groupe majoritaire, parce que c'est quand même, puisqu'ils ne le disent pas, moi je le dis, c'est peut-être quand même insultant, en disant qu'ils votent quasiment des choses sans les avoir lues, etc. Voilà.
Mais alors, je
le dis parce que quand
c'est
même.
C'est pas correct, je n'ai jamais dit cela. Voilà. Vous voulez partir dans des choses qui sont particulièrement malsaines.
Je les ai vues.
Je n'ai pas dit cela.
Je les ai
vues. Je dis que vous retenez l'information et que vous la biaisez et que forcément, face à vous, vous avez des conseillers municipaux qui, en leur âme et conscience et en toute bonne foi, votent des délibérations qui ne reflètent pas la réalité de leur destination. Voilà, c'est cela mon propos, monsieur. Voilà, c'est tout.
C'est
donc je vous demandais,
de
et je ne vous ai pas dit que vous étiez dans l'illégalité, je vous ai demandé si vous avez suivi clairement la procédure, si vous avez été demandé par le propriétaire de procéder à l'achat de cette propriété, c'est tout, ce sont des questions simples.
Oui.
Si ça a lieu comme cela, vous me le dites, si ça n'a pas lieu. Voilà, c'est tout.
Eh bien. Bien, donc...
Je suis sur des faits, monsieur.
Oui, oui, des faits. Bon, nous... Voilà.
Donc vous n'avez pas la réponse à mes questions. On est bien d'accord.
Mais écoutez, je vous réponds ce que j'ai envie de vous répondre aussi. Vous ne croyez pas quand même que... Hein, voilà.
Monsieur le maire.
Oui.
S'il vous plaît, je peux faire juste une intervention par rapport à ce qu'a dit monsieur Pradero au niveau des dépenses du personnel. À juste titre, il a souligné que le gel du point d'indice, effectivement, était bloqué. Je suis d'accord avec lui. Par contre, ce que vous omettez de dire, c'est que le BPCR est remis en application. C'est le parcours professionnel de carrière de rémunération. Il faut savoir qu'il a été mis en place en 2017. En 2018, il a été gelé par le gouvernement. Il a lieu de remettre maintenant sur les 2019, 2020, 2021. Et ça a un coût au niveau des dépenses de personnel. Il faut le savoir, parce que c'est revu au niveau des indices. Les indices sont revenus dans les différents cadres d'emploi, les grades qui occupent la fonction publique territoriale. Ça, il faut le savoir aussi. Et il faut le dire. Et il faut le savoir le dire.
Tout à fait. Mais dans le DOB, il n'était pas question de ça, il n'était pas question de ce gel. Et s'agissant du gel, par contre, du point d'indice, c'était une donnée que nous avions, qui était partagée par tous.
Je crois qu'il est bon aussi de dire certaines choses aussi, parce que l'Assemblée, les gens, c'est assez technique, je dois reconnaître, mais il faut savoir aussi dire les choses.
Il faut participer au DOB, c'est bien.
Bien, puis après, il y a gel, il n'y a pas gel, etc. C'est factuel, c'est les directives gouvernementales, nous les appliquons. Hein, il y a le 1,2%, on sait très bien que pour le moment, ça ne nous touche pas, mais qu'il y a quand même une suspicion que ça peut aller au-delà. Donc on essaie de se mettre aussi en position de façon à respecter cette augmentation contrainte des charges de fonctionnement. Voilà, donc ça aussi. Hein. Bien. Écoutez, bon, je vais peut-être en deux secondes quand même rappeler les choses les plus... Oui, monsieur Davé, peut-être.
Rien de particulier, monsieur le maire, je dois partir. Voudrais donner procuration à Gérard Sagne.
Ok, très bien.
Et répondre à monsieur Pradero, je pourrais le faire en chanson, mais je ne sais pas chanter. Non, je n'ai pas changé.
Bien, donc Monsieur Davé donne procuration à Monsieur Sagne. Oui, donc en deux mots, donc vous avez bien compris qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôt l'année prochaine. Puis il y a quand même des choses concrètes. Donc on est toujours dans la maîtrise des charges de gestion, dans la rigueur évidemment de la gestion. Il y aura une épargne brute de 7 millions d'euros. Vous avez bien compris qu'on va continuer les opérations d'aménagement urbain. Bon, je ne vais pas les citer. Et donc aussi, il n'y aura pas d'emprunt, donc l'encours de la dette va baisser environ de 2,6 millions, et évidemment, les charges aussi d'intérêt seront aussi en baisse. Voilà, Madame Delmas a excellemment rapporté ces orientations budgétaires, et maintenant, je vous demande donc de prendre acte de ce débat et de m'habiliter donc à procéder à la transmission et à la publication du rapport sur les orientations budgétaires selon les modalités définies en décret. Bien, maintenant, je vais donner la parole